les jardinières.
C'est aujourd'hui le premier jour de l'été, une bonne raison de tendre l'oreille pour écouter les jardinières avant de filer au jardin. Bonjour Noélie.
Bonjour Mylène.
Et pour débuter cette nouvelle saison, nous sommes en compagnie de Nicolas Ruche. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mylène, bonjour Noélie, bonjour tout le monde.
Nicolas Ruche, vous êtes horticulteur au jardin botanique de Neuchâtel. Merci d'être avec nous ce matin.
Avant les grosses chaleurs, on profite du frais avec les jardinières. On est ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Les chaleurs estivales sont bien décidées à s'installer. Les températures vont facilement dépasser ou frôler les 30 degrés. Nicolas, à part s'enduire de crème solaire, qu'est-ce qu'on fait au jardin ces prochains jours?
On va profiter de la chaleur de la fraîcheur du matin pour faire ces petites récoltes. Je ne sais pas si vous avez peut-être des petits fruits dans le jardin ou une petite salade pour la grillade de ce soir. Profitez d'aller la récolter. De récolter tout ça ce matin. On est en été, puis je vous parle déjà de l'automne, l'hiver, mais c'est aussi le moment de préparer ces plantations et semis de légumes pour cet hiver, le poireau et les choux. Voilà.
Merci Nicolas, vous restez avec nous jusqu'à 8h. Vous prendrez notamment le temps de répondre aux questions jardinage de nos auditeurs. On attend d'ailleurs vos questions par téléphone au 0900 170 20 20. Vous pouvez également remplir le formulaire que vous trouvez sur notre site et joindre une photo à votre question. Ou alors la troisième manière de s'y prendre, c'est par SMS. Il suffit de taper « jardin », laisser un espace suivi de votre question et de votre nom et de nous envoyer le tout au 939.
7h, 8h, les jardinières.
Ils bouleversent nos saisons, nos plantes et nos habitudes de jardinage. Le changement climatique, on en parle en compagnie de Nicolas Ruche, horticulteur. Dans cette première partie, on va se pencher sur les effets négatifs du changement climatique sur nos jardins. Alors Nicolas, vous qui êtes tous les jours au jardin botanique de Neuchâtel, quels signes concrets vous observez sur ce changement climatique ?
D'abord, c'est en fonction des années, notamment des arbres fruitiers. On a soit de bonnes récoltes ou pas de récoltes du tout. Simplement parce qu'il y a des fois des gels tardifs ou des précipitations importantes à des moments clés, soit à la floraison ou lorsque les fruits se forment. Donc ça c'est déjà une première chose. Ou l'autre chose, c'est qu'on voit que certaines plantes, comme les rhododendrons, les hortensias, qui aiment bien avoir des sols frais, sans être détrempés, mais des sols frais pendant la belle saison, eux, on a de plus en plus de mal à les cultiver.
Est-ce que certaines plantes souffrent plus que d'autres du changement climatique? Si oui, lesquelles et pourquoi?
Alors, ce sont les plantes de montagne. Par exemple, ça, c'est des plantes qu'on présente aussi au jardin botanique. Par exemple, on pense à l'Edelweiss, aux gentianes. Toutes ces plantes, il est de plus en plus difficile de les cultiver dans les jardins, chez nous, parce que déjà, elles n'aiment pas les étés chauds et secs, comme on peut avoir aujourd'hui. Et puis, ce qu'elles n'aiment pas non plus, c'est que les hivers, ils sont de plus en plus doux. Donc, des fois, elles se mettent en végétation, elles poussent alors que ça ne serait pas le moment. Donc, elles peuvent avoir des maladies ou autres. Voilà. Et donc, ces plantes, aussi bien dans nos jardins qu'en altitude, c'est elles qui souffrent le plus du changement climatique.
Et du coup, Nicolas, est-ce qu'on peut encore se fier aux saisons comme le faisaient nos grands-parents pour planter, semer, récolter?
Alors, moi, dans ma pratique, oui, j'ai toujours mon référentiel.
L'almanach, comme on dit.
Oui, l'almanach, ou ce que j'ai pu apprendre, ou est-ce qu'on peut retrouver aussi dans les références, les saints de glace, toutes ces références-là. Après, on doit s'adapter. On est aussi un peu plus vigilant, notamment, par exemple, au gel tardif. J'en ai parlé avant pour les arbres fruitiers. Nous, au jardin botanique, les plantes d'orangerie, on est toujours très... Toutes ces plantes qu'on a en bac et puis qu'on sort à la fin du printemps, on est très attentif aux températures qu'il peut faire. Voilà. Mais après, il y a aussi des choses qui changent. C'est qu'avant, on conseillait plutôt ces plantes d'orangerie, de les rentrer plutôt fin du mois d'octobre. Là, ces dernières années, on les rentre de plus en plus tard, même jusqu'au mois de décembre, il n'y a pas de souci.
Est-ce que le changement climatique a des conséquences sur la santé du sol ou alors sur la santé des plantes?
Oui, alors il y a beaucoup d'effets, on ne s'en rend pas forcément compte comme ça. D'abord, au niveau du sol, c'est qu'il fait, on peut se dire qu'il fait un petit peu plus chaud, mais ce qui se passe, c'est que l'atmosphère, elle est plus chaude, donc elle peut absorber accueillir plus d'humidité. Donc ça fait que les sols ils sèchent beaucoup plus rapidement qu'en temps normal. Et donc les observateurs parlent d'une certaine aridité qui s'installe dans nos sols. Alors je parle plutôt ici en plaine. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui... Des sols qui sont de plus en plus secs. On doit plus arroser, mais ça s'évapore aussi de plus en plus vite. Donc c'est un peu une course qui s'installe à ce niveau-là. Et puis au niveau de la santé des plantes, on le voit notamment au niveau de tout ce qui est productivité, au niveau du rendement, c'est que les plantes, elles n'aiment pas des températures qui sont autour de 30 degrés, voire plus. C'est qu'elles elles sont un peu comme nous, elles ont envie d'être tranquilles, de se mettre au repos. Et puis soit on a moins de fruits, moins de légumes, soit même pas du tout. Je parlais aussi tout ce qui est précipitation, gel tardif, qui sont aussi un effet sur la santé des plantes. Donc on peut se retrouver facilement avec des plus petites récoltes.
Et on reste dans le thème de la santé des plantes. Est-ce que des nouveaux parasites ou maladies sont apparus avec ce changement climatique ?
Alors, il y a plein de nouveaux parasites et maladies qui apparaissent. Mais ce n'est pas directement dû au changement climatique, c'est surtout dû au commerce mondial, au flux de marchandises. C'est que tout d'un coup, il y a un petit insecte qui se retrouve sur une palette ou qui arrive avec des plantes de l'autre, parfois de l'autre bout du monde. Et puis, on les retrouve chez nous. Par exemple, il y a quelques-uns qu'on connaît bien, malheureusement, la pyrale du buis. Qui nous vient plutôt d'Asie. On a le scarabée japonais, une punaise, marbré qui font de plus en plus de dégâts dans nos cultures. Et puis, ces insectes sont favorisés par le changement climatique parce que les conditions leur sont un petit peu plus favorables. Et donc, nous, en tant que professionnels, il y a des choses qui sont mises en place pour faire vraiment un contrôle, pour éviter que ces petits insectes, ils arrivent dans nos cultures, puis après chez le privé, notamment, il y a le passeport phytosanitaire. C'est un petit code avec un petit drapeau suisse, quand c'est des plantes qui viennent de Suisse. Et puis, c'est ce que vous avez pu découvrir sur les étiquettes de vos plantes que vous achetez en jardinerie. Et puis, ça, c'est un signe à cause du changement climatique et puis à ces flux de marchandises, on doit faire attention pour éviter qu'on en ait d'autres qui s'installent par chez nous.
Et le changement climatique, c'est aussi l'arrivée de vents plus forts, de la grêle, de pluies violentes. Est-ce qu'il existe des moyens de prévenir ou de protéger son jardin face à ces phénomènes extrêmes ?
Quand on parle de phénomènes extrêmes, c'est toujours difficile déjà de les prévoir et savoir ce qui va se passer. Donc, est-ce qu'on se protège contre le vent, contre la grêle ? Et puis, souvent, dans un jardin privé, il est difficile de faire quelque chose. Et puis, on a pu le voir ici sur Neuchâtel le week-end passé. C'est des situations qu'on n'a pas pu imaginer même quelques heures avant. Et puis donc, il est difficile d'agir efficacement de manière préventive. Il y a les producteurs, ils installent des filets contre la grêle sur certaines cultures. Mais moi, je me vois mal installer un filet contre la grêle dans mon jardin. Je ne suis pas sûr que madame apprécierait. Mais ce que je peux recommander, c'est d'installer peut-être des cultures sous abri. Par exemple, pour les tomates, il existe des petits abris, juste des petits avant-toits. Ça permet de se protéger. Mais sinon, il est difficile de faire quelque chose contre ces événements violents.
7h, 8h, les jardinières.
On parle ce matin d'un jardin qui change avec le climat. Nicolas Ruche, vous êtes horticulteur à Neuchâtel. Vous venez de nous parler de la situation. On va voir maintenant le côté, on va dire, plus positif, les astuces et les opportunités. Parce qu'on le sait, jardiner, c'est s'adapter.
Est-ce qu'on voit déjà des espèces ou des variétés qui profitent de la chaleur ?
Il y a par exemple les piments, les poivrons. Alors c'est plus facile, je veux pas dire que ça devient facile, parce que c'est quand même toujours des... Ça dépend en plus où on habite, c'est des cultures qui sont longues et puis pas forcément toujours adaptées aux conditions qui peuvent aussi changer. Par exemple l'année passée, c'était pas forcément une superbe année pour les piments et les poivrons. Après, d'autres cultures qui sont aussi variables en fonction des années, c'est melon pastèque qu'on trouve de plus en plus dans nos jardins. Il y a des producteurs dans le Zélande aussi, donc voilà, ça c'est des choses qu'on voyait, des cultures qu'on voyait assez peu auparavant. Et puis après, si on est un petit peu plus aventurier, on peut essayer des choses comme le soja, ou par exemple même des gens qui essayent la cacahuète. Nous, on les cultive encore sous serre au jardin botanique, mais voilà, j'ai vu qu'on pouvait s'acheter des petits pieds de cacahuète et puis planter ça dans son jardin.
Et puis, vous avez pu les manger à l'apéro ? Ça marche ?
Non, parce qu'on a juste ce qu'il faut pour ressemer l'année prochaine. Donc, on n'a pas encore une production de cacahuètes de châteloise.
Est-ce que les plantes du sud, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais est-ce qu'on pourrait imaginer vraiment, je ne sais pas, par exemple, des pastèques chez nous un jour ? Belles grosses pastèques ?
Des grosses pastèques, ouais, on reste quand même encore des variétés petites. Alors, c'est pour le moment, mais oui, ça pourrait arriver avec des grosses pastèques grecques. Mais après, il y a d'autres cultures qui s'installent, qui étaient un peu plus compliquées auparavant. Puis maintenant, on ne réalise même pas. Par exemple, c'est le romarin. Moi, j'ai mes formateurs à l'époque qui me disaient « on protège le romarin pendant l'hiver ». Là, ici, en plaine, alors il y a aucun souci, il pousse même trop vite. Les oliviers aussi, on peut se permettre, toujours ici en plaine, de pouvoir l'installer dans nos jardins. Après, il y a d'autres légumes qui deviennent intéressants et qui, dont on n'a pas forcément l'habitude. Là, je vais parler par exemple du pois chiche, qui est une plante que j'adore manger quand c'est encore tout frais, comme ça. Et puis, qui supporte très bien le chaud et le sec. Voilà. Alors, par contre, de nouveau, des années pluvieuse, on a un petit peu moins de pois chiches. Et puis au niveau des choses un peu plus remarquables, alors que vous n'allez pas forcément faire dans votre jardin potager chez vous, mais par exemple, il y a des producteurs de riz qui s'installent au nord des Alpes. Avant, c'était plutôt en Italie, au sud des Alpes. Et puis voilà, donc il y a le riz qui s'installe. Et puis au niveau ornemental, des choses un peu plus drôles. Les cactus, jusqu'à quand même 20 ans en arrière, c'était limité à des passionnés, puis maintenant on peut gentiment installer plus ce genre de plantes remarquables qui viennent d'Amérique. Voilà. Mais toujours en faisant attention, parce qu'il y en a certaines qui s'échappent des jardins, et donc si on ne veut pas trop s'embêter, il faut regarder quand même ce qu'on plante et où on le plante. Voilà.
Les jardinières.
Comme chaque samedi, entre 7h et 8h, on parle de jardin. Nous sommes en compagnie de Nicolas Ruche, horticulteur au jardin botanique de Neuchâtel. Et ce matin, on parle changement climatique. Quelles sont les conséquences dans nos jardins? Et puis, bien sûr, nous répondrons aux questions de nos auditeurs.
Vous pourrez nous appeler pour poser vos questions au 0900 70 20 20, et vous pourrez parler directement avec Nicolas. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo via le formulaire disponible sur notre site, ou alors simplement nous écrire un SMS. Il suffit de taper le mot « jardin » au début du message, laisser un espace, poser votre question et votre nom, et vous nous envoyez votre message au 939.
Alors Nicolas, avant la pause, vous nous avez parlé de ces légumes qui peuvent profiter du changement climatique, qu'on peut essayer de planter chez nous, comme les pois chiches, les cacahuètes, certaines pastèques. Mais est-ce que ce changement climatique, il peut aussi booster certaines floraisons ou récoltes de nos plantes indigènes ?
Alors, les plantes indigènes, donc les plantes qui sont naturellement présentes en Suisse, elles n'aiment pas trop ce changement climatique.
C'est des vieilles Suisses, elles n'aiment pas le changement.
Non, alors pas pour ça, c'est juste qu'elles sont pas adaptées, c'est qu'elles sont là depuis très longtemps, des milliers d'années, et puis elles sont habituées à nos conditions climatiques habituelles. Et puis là, le chaud, le sec, elles n'aiment pas trop. Alors, le point positif, c'est que des fois, on peut récolter plus vite, surtout au printemps ou en début de saison, certaines plantes, parce qu'elles poussent plus rapidement. Mais à beaucoup d'autres, toutes les récoltes qui se font un peu plus tardivement. Là, je pense par exemple au sureau noir. Moi, j'aime bien récolter les fruits pour en faire le sirop. C'est super contre les refroidissements en hiver. Mais lui, il n'aime pas quand il fait chaud et sec. Et puis, on se retrouve des fois avec peu ou pas de fruits de sureau noir dans nos forêts ou en lisière de forêt. Voilà.
Les étés sont très chauds, Nicolas. Est-ce que vous avez quelques conseils ou astuces pour que le jardin ne souffre pas trop de la chaleur ?
Alors, j'ai à plusieurs niveaux. Il y en a deux, trois, je vais vous en donner quelques-uns. D'abord, évitez les variétés qu'on dit de montagne quand vous les cultivez, quand vous êtes en plaine. C'est que c'est des variétés qui sont habituées aussi, comme on parlait de nos plantes indigènes, à des conditions de montagne un peu plus fraîche. Et puis là, vous êtes en plaine, il fait de plus en plus chaud. Donc, c'est des choses à éviter. L'autre chose aussi, c'est, on va parler un petit peu du gazon. C'est éviter de tondre le gazon trop bas. Ce qui se passe, c'est quand on tond le gazon trop bas, bah, il fait plus chaud, plus sec à la hauteur du gazon et puis gris plus facilement. Si on le laisse un petit peu plus haut, bah, on se retrouve un peu avec un effet forêt où il fait bon, frais, au niveau du sol, au niveau du gazon. Et puis, il va... Alors, ça ne veut pas dire qu'il va mieux, beaucoup mieux durer, mais il va durer un petit peu plus longtemps avant de devenir tout gris. Au niveau du potager, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est bah, d'utiliser le paillage, c'est-à-dire couvrir ces cultures avec, moi, je conseille toujours de ce qu'on a sous la main. On a parlé du gazon, les déchets de tonte, c'est de mettre ça sur vos cultures. Ça protège du soleil, parce que quand on est sur un sol noir foncé, le soleil, quand il tape dessus, il se réchauffe beaucoup plus rapidement. Donc, l'eau s'évapore plus rapidement. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que quand on met le paillage, l'eau, elle s'évapore moins rapidement parce qu'elle est un petit peu limitée par... elle est retenue par le paillage. Et puis, je parlais, en plus des déchets de tonte, ce qu'il y a, c'est que ça apporte un petit peu d'azote à votre jardin. Donc, c'est du 2 en 1. Sinon, ce que vous pouvez faire, un dernier truc, c'est essayer de planter, d'amener des arbres ou même plus de plantes dans votre jardin. Éviter toujours ce qu'on appelle des îlots de chaleur, c'est de mettre une grosse construction en pierre ou en béton là au milieu qui va retenir la chaleur et qui va rendre notre petit climat de jardin plus chaud et plus sec. Voilà.
Et Nicolas qui dit chaleur dit arrosage, est-ce que vous avez des techniques à proposer aux jardiniers amateurs pour économiser un peu l'eau du jardin ?
Alors, ce que vous pouvez faire déjà, c'est mettre en place un petit réservoir ou un grand, si vous avez la place, que vous reliez à une chenot, et puis quand il pleut, c'est de l'eau que vous mettez de côté, et puis que vous pouvez utiliser pour arroser votre jardin, votre potager. L'autre chose, j'ai parlé du paillage, donc ça c'est déjà une première technique, mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est mettre... un arrosage, par exemple ce qu'on appelle les tuyaux suintants sous le paillage, ça fait que quand vous arrosez, vous vous reliez au tuyau d'arrosage et puis l'eau elle arrive directement au pied des cultures et sur la terre, parce que quand on met un paillage et puis quand il fait le paillage il retient l'humidité du sol, mais il va pas, s'il fait sec pendant 2 semaines, il va pas le retenir complètement pendant 2 semaines. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'on va arroser. Si on l'arrose à la main par-dessus, il faut déjà réhydrater le paillage avant que l'eau elle arrive au niveau du sol. Donc, moi, ce que je fais personnellement de plus en plus, c'est que j'installe les tuyaux dessous. Et puis, il faut quand même un petit peu les gratter, contrôler dessous. Mais j'économise un petit peu d'eau. Et puis, ce qu'on peut aussi faire, c'est mélanger des cultures. Alors, il y a des associations sur des cultures, mais par exemple, là, je vais donner un exemple qui se fait en Amérique centrale, c'est les trois sœurs. C'est d'utiliser le maïs, on plante du maïs. Au pied du maïs, on sème des haricots aram, donc des haricots grimpants, qui vont profiter du maïs pour comme support, donc il n'y a pas besoin d'installer des tuteurs ou autre. Et puis, vous mettez au pied des courges qui, elles, avec leur feuillage, vont couvrir le sol et garder mieux l'humidité au niveau du sol. Après, ça, c'est les trois ensemble, mais moi, ce que je fais à la maison, c'est que j'écarte quand même mes tuteurs pour les haricots et je mets les courges au pied. Voilà.
Nicolas, vous qui vivez ce changement climatique au quotidien dans votre métier, est-ce que vous le voyez plutôt comme une menace, un défi ou une opportunité de réinventer notre façon de jardiner ?
Alors, une menace, oui, parce que on ne sait pas trop où on va. J'en discutais hier encore avec un visiteur au jardin botanique. Que faire ? C'est un peu avoir une boule de cristal pour essayer de s'imaginer ce qui va déjà se passer dans l'année. Est-ce que je plante comme haricot, ça ira bien? Est-ce que, mes tomates, est-ce qu'elles iront bien? Mais aussi, si on plante un arbre fruitier, c'est des choses qu'on plante avec un objectif de plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est une menace, on ne sait pas où on va. Et puis, un défi, faut quand même, on doit faire avec. Au lieu d'être, j'ai une nature assez positive, donc on essaie de trouver des nouvelles façons de jardiner. Et puis, une opportunité, pas vraiment. Je pense que dans ma pratique professionnelle, je me serais bien passer de cette opportunité ouais, de travail là. Je préfère un défi pour réinventer notre pratique professionnelle ou notre pratique de loisir. Mais voilà, une opportunité. Bon, on parlait de pastèque et autres, mais je pense que auparavant, ben, je pense ouais, on pourrait. Je serais pas si, sur le long terme, ben, si on a. C'est qu'il fera de plus en plus chaud, donc peut-être ce sera même difficile, peut-être dans quelques années, de travailler avec des melons et des pastèques ici, parce que ben, notre souci, c'est toujours le manque d'eau.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est aussi l'émission où on répond à vos questions jardinage. On a reçu pas mal de questions, Nicolas, de nos auditeurs. Tout d'abord, une question sur un nénuphar, le temps que je la retrouve. Voilà, bonjour. Un nénuphar s'est ouvert dans notre étang pour la première fois depuis 8 ans. Avez-vous des conseils pour qu'il revienne l'année prochaine ou mieux qu'il fasse d'autres fleurs? Et puis, la personne nous a mis une photo de son nénuphar, une belle fleur blanche avec un milieu tout jaune.
Alors, pour les nénuphars, très belle photo, je suis heureux pour vous qui commence de fleurir. Je ne sais pas pourquoi il a pris autant de temps, mais là, il faut ne pas le gêner. Alors, les nénuphars, ils n'aiment pas qu'on les embête au niveau des racines ou autre, donc laissez-le. Là, il s'est installé, ça fonctionne. Et puis, si vous avez de la chance, il peut arriver encore quelques fleurs, mais je pense qu'il faut quand même quelques années pour bien qu'il s'installe, qu'il s'épanouisse encore plus. Puis là, après... Alors, je n'ai pas donné de temps, mais il va mieux se développer. Bah, déjà, c'est un bon signe parce qu'il a déjà une fleur. Et puis, au fur et à mesure des années, il va se développer et puis vous proposer encore de plus en plus de fleurs. Voilà.
Un auditeur nous a appelé tout à l'heure pour nous parler de ses plantons de salade. Roland de Cerny a constaté qu'il y avait des vers de fil de fer dans ses plantons. Elle mange la racine, ses salades deviennent donc plates. Il a essayé différents produits. Il a également essayé la technique des pommes de terre coupées en deux, mais rien n'a marché. Il se demande alors quelles astuces vous auriez pour résoudre le souci.
Ouais, alors ça, c'est un de mes plus grands cauchemars dans mon jardin potager. C'est pas un problème qui se résout facilement. Alors il y a des choses, par exemple les pucerons, hop, ça on arrive assez à faire. Celui-là, pas trop. Ce que je peux vous recommander, puis d'essayer, c'est faut surtout pas replanter des salades où vous en aviez. Parce que bah, là, ils sont peut-être encore présents dans la terre, ou bah, voilà, où les conditions du sol sont favorables à l'insecte et pas pour vos salades. Après, bah, c'est ce que vous pouvez faire, c'est planter ailleurs, augmenter, ce qu'on dit toujours, augmenter la fertilité du sol, améliorer un peu votre sol, et puis c'est de ramasser ces petits vers. Mais je n'ai pas encore trouvé la solution miracle, j'en suis désolé.
Ouais. Si vous la trouvez, vous
je la communiquerai une autre fois.
Ça marche. On a reçu une question de Michel de Buy qui nous demande comment écologiquement se débarrasser des fourmis dans le potager.
Alors, à première vue, on se dirait que c'est pas un grand souci, les fourmis dans le potager. Mais ce qu'elles font, les fourmis, c'est qu'elles élèvent les pucerons, elles les protègent contre leurs prédateurs. Donc, on se retrouve avec... Et des fois, même, elles les déplacent d'une plante à l'autre ou d'une partie de plante à l'autre. Donc, c'est pas forcément nos meilleurs amis, les fourmis. Et donc, manière écologique, je peux recommander, il existe des petits produits à pas à base d'insecticides naturels où les fourmis, ça pose dans le jardin potager, puis les fourmis vont se nourrir de ça, le ramènent dans le piège, dans la fourmilière, et puis voilà. Alors, c'est une fin un petit peu tragique, mais voilà, c'est un petit choix à faire. Donc, c'est soit les fourmis, soit peut-être pas grand-chose dans le jardin potager, voilà.
Les jardinières.
Il est déjà presque l'heure de se dire au revoir. On a parlé du changement climatique ce matin avec vous, Nicolas. On pourra réécouter toutes vos explications sur notre site, en podcast, en cours de matinée. Mais avant de partir, on a reçu encore une question de Gretry de Châtelat qui nous parle de son jeune pommier qui a fait des fleurs, mais qui n'a pas fait de feuilles. Et cette personne se demande ce qu'elle doit faire.
Ah, c'est sur un jeune pommier, oui. Alors... Il est. Je pensais que c'était plutôt sur un ancien. Alors, sur un jeune, il faudrait regarder au niveau. L'arrosage, mec, ouais. J'ai un petit doute. Déjà, c'est pas un bon signe qu'il ait fait des fleurs et puis pas de feuilles, parce que les feuilles sont essentielles pour. Euh, pour l'arbre et puis pour qu'il puisse se multiplier, ouais, pour qu'il puisse croître. Je contrôlerai peut-être au niveau du système racinaire. Ouais, faudrait contrôler si tient, ouais, si tient bien au sol. Ouais, c'est que tout d'un coup là, je pense, tout d'un coup, ça peut être un campagnol ou un autre petit animal qui s'est fait un plaisir de manger quelques racines ou même simplement déranger son système racinaire. Et puis, ça peut être une raison si c'est un jeune arbre fruitier. Je contrôlerai aussi s'il n'y a pas vraiment de... Au niveau visuel, s'il n'y a pas de pucerons, d'autres ou de taches noires, d'une guilde, par exemple, ça peut être du chancre ou autre. Bon, sur un jeune arbre, c'est pas courant. Mais ouais, je contrôlerai peut-être au niveau des racines s'il n'y a pas eu de visite il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière pour manger un peu les racines. Voilà.
Est-ce qu'on peut faire déjà quelque chose pour, en prévention pour ces jeunes arbres, pour éviter que les campagnols viennent se servir ?
Alors, il existe une technique qui fonctionne, mais pas à chaque fois. Bon, c'est comme ça avec la nature. Des fois, on est en compétition avec des organismes qui sont aussi affamés et avec de bonnes réflexions, mais c'est de planter, de mettre des cages en fer au niveau du système racinaire. Et quand on plante l'arbre, et puis ça fait que les racines qui sont tout proches de... C'est des petites cages, hein, elles font peut-être quelques dizaines de centimètres. Et puis ça fait que ça protège les racines principal de l'arbre fruitier quand on le plante. Donc ça fonctionne. J'ai vu que des fois ça fonctionnait bien et des fois un petit peu moins bien, mais c'est quelque chose qui s'utilise, voilà.
Merci Nicolas, on rappelle que vous êtes horticulteur au Jardin Botanique à Neuchâtel, un lieu super à visiter durant les vacances d'été. On vous souhaite un bon week-end et on se voit à la rentrée chez les jardinières.
Très bonne journée à vous, bonnes vacances, bel été aussi.
Merci beaucoup Nicolas. Samedi prochain, c'est la dernière des jardinières avant la pause estivale. Et pour cette dernière, on vous emmène au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Entre 7h et 8h, nous serons en compagnie de Rebecca Luchinger et Jordi Gonzalez. Et nous nous baladerons sous leur figuier. On vous souhaite une belle semaine et on se dit à samedi prochain. Bon week-end Noélie.
Bon week-end Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.